Alors moi, je vais faire un partage sur comment faire de ton emploi un travail pour Dieu, une porte vers ta destinée. Alors je ne sais pas qui a envie de faire de son emploi actuel un travail pour le Seigneur. Est-ce qu'il y en a beaucoup? En tout cas, moi oui, c'est d'actualité. C'est de très d'actualité. Voilà, c'est comment faire de ton emploi un travail pour Dieu. Alors je vais reprendre un petit peu en arrière la prédication de Rodrigue, parce que tout le monde ne sait pas peut-être la différence entre l'emploi et le travail. Rodrigue nous a expliqué que Dieu nous avait donné un Éden dans la Genèse. Il est dit qu'il nous donne un Éden, un lieu où les œuvres sont préparées d'avance, où nous avons autorité. Donc c'est dans Genèse 2,15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc on a une mission bien précise dans notre Éden, et bien c'est de cultiver, donc de travailler, et de garder ce que Dieu nous a donné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail selon Dieu, c'est-à-dire ce pour quoi on est né. On est avec une mission sur terre, on n'est pas né au hasard. Vous avez tous, on a tous un appel de Dieu. Dieu nous a mis à un endroit, nous a donné des talents, nous a donné des capacités, nous a donné le look qu'on a, on nous a donné exactement ce qu'il fallait pour une mission bien particulière. Il a un projet spécifique, un Éden pour chacun de nous. Donc ça, c'est notre vocation, c'est notre appel. Et notre cœur brûle. On dit « Ah, Seigneur, je veux te servir. » Et puis, on le différencie de l'emploi, qui en fait est un petit peu plus terre à terre. C'est ce pourquoi on est payé. Alors, c'est vrai que quand on trouve son travail, on se dit « On a trouvé sa destinée, n'est-ce pas ?» Mais parfois, le travail peut être l'emploi. Rodrigue, il tire son salaire de son travail et on est très très content et on espère qu'il va progresser et qu'il va avoir une belle inflation et que tu vas pouvoir voilà, doubler, tripler ton salaire. Voilà, l'annonce est faite. Mais parfois, on a un travail, on rentre dans sa vocation, mais néanmoins il faut payer les factures, il faut faire il faut prendre soin de sa famille et donc parfois on a aussi un emploi. Et puis parfois, on croit qu'on n'a qu'un emploi. Et on soupire après son travail. Alors tout le monde n'est pas encore dans le travail de Dieu. En tout cas, on croit ça. Alors est-ce à dire que nous sommes destinés à subir son emploi ou d'en changer au plus vite? Je ne sais pas si vous êtes entouré de gens, mais en ce moment, moi j'ai plein de gens qui veulent changer de... N'est-ce pas, Rodrigue? Qui veulent changer de d'emploi. Je souris parce que c'est mon cas, mais j'écoute ce que Dieu me dit. Et donc, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne trouvent pas leur Canaan, leur appel ou leur destinée? On fait une école pour ça, c'est l'école destinée, d'ailleurs je vous encourage à la faire. C'est vraiment une école où justement on apprend à discerner quelle est notre destinée. Et beaucoup ont l'impression d'être dans un désert et aspirent à un ailleurs meilleur. Vous savez, l'herbe plus verte chez le voisin. Mais en fait, je vais vous dire une chose qui ne va pas vous surprendre, c'est que le chemin de notre destinée se dévoile chemin faisant. On n'arrive pas à l'arriver tout de suite. En fait, c'est une course de fond. Et au fur et à mesure, on va découvrir un peu plus notre travail, un peu plus de notre vocation. Mais même ceux qui savaient pourquoi ils étaient appelés, ont eu à faire un emploi. David, il a été berger, il a été musicien pour Saül, il a été soldat. Pourtant, David savait qu'il allait régner comme roi. Pareil, Paul, il savait qu'il était apôtre, et pourtant, il a dû travailler, il a fait des tentes, il était artisan. Et on sait que cela, c'est l'étape de formation du caractère et du développement des dons. Parce que comment voulez-vous savoir si vous avez des dons, si en fait vous n'avez pas l'occasion de les expérimenter, aussi bien que les compétences? Parce que en fait le Seigneur nous prépare pour notre travail. Et je veux rebondir sur la prédication de Nirina. savez, la semaine passée, Nirina nous a expliqué avec beaucoup d'attention qu'en fait, il y avait 6 étapes dans notre vie. La première, c'est l'enfant. La deuxième, c'est la formation. On découvre nos dons, nos talents. Après, il y a la formation du caractère, ce qui est un petit peu plus compliqué. C'est souvent là qu'on bute. Enfin, je sais pas vous, mais de temps en temps, quoi. En tout cas. Et puis après, quand on a laissé le caractère se former, Christ en nous, eh bien après, Dieu nous confie le bien d'autrui. Ça, c'était la 4e étape. La 5e étape, Dieu cherche les fruits dans nos vies. Parce que vous savez qu'on reconnaît un arbre à son fruit. C'est pas parce qu'on dit certaines choses ou qu'on fait plein de choses, c'est quel est le fruit qu'on porte. Puis Dieu nous introduit dans son Éden. Ah, voilà, notre Éden. Et Dieu nous établit dans notre travail. Donc ça, c'est les 6 étapes. Donc vous voyez, tout le monde y est passé. Et du coup, si vous êtes dans une de ces 6 étapes, c'est bon, vous êtes dans le processus de Dieu. Mais par contre, si tu ne veux pas être coincé dans ton emploi et ne pas porter de fruits, alors j'ai un conseil, c'est confie-toi en Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous sont comme coincés dans un emploi et on ne voit que l'emploi et on soupire après le travail, la vocation. Mais j'ai un verset que j'aime par-dessus tout et qui est pour vous ce matin. C'est Ésaïe 51,3. Qui dit « L'Éternel rendra ton désert semblable à un Éden et ta terre aride un jardin de l'Éternel. » En fait, c'est la promesse que Dieu fait à son peuple. Et il lui dit « Il rendra ton désert semblable à un Éden et ta terre aride un jardin de l'Éternel. » Bon, alors moi, j'ai trouvé en français courant quelque chose qui pouvait nous parler aussi. Ça, je l'avais quand j'étais ado. « Si la vie te donne un citron, Dieu en fait une citronnade. » Ça, c'était le... Alors, en fait, pour expliquer comment Dieu va transformer les terres arides en jardin de l'Éternel, je voulais m'appuyer sur l'histoire de Ruth. C'est où on trouve des principes du royaume, très simples, de fidélité, d'obéissance, d'humilité, de persévérance, de témoignages qui ont amené Ruth en fait à transformer un simple champ de blé en jardin de l'Éternel, un lieu où les promesses se révèlent et s'accomplissent. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, c'est un tout petit livre, il fait 4 chapitres, c'est un peu comme Esther, c'est une petite capsule on pourrait dire maintenant, c'est une petite histoire avec un début, une fin qui finit bien. Et en plus, elle est très pédagogique parce qu'on nous explique, en ce temps-là, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Et en fait, l'histoire de Ruth, c'est assez simple. Ruth était mariée à Élimélec et avait 2 fils, Malchon, je crois, et Kiljon. Et donc, il y a eu une famine dans le territoire de Juda. Ils étaient à Bethléem et ils ont décidé donc de partir pour le territoire de Moab, pour éviter et aller survivre. Donc ils habitent un certain temps dans le territoire de Moab. Les 2 enfants de Ruth se marient avec des jeunes femmes moabites, de Naomi se marient avec des 2 jeunes filles moabites. Et il se trouve que pendant ce temps-là, le mari de Naomi, donc Élimélec, et ses 2 fils meurent. Donc elle se retrouve entre femmes. Et à cette époque-là, les veuves, s'il n'y avait pas un soutien, c'était vraiment compliqué. Et donc, elle apprend que dans Israël, la famine a disparu et donc elle décide de retourner dans son pays. Et elle demande à ses belles filles de rester dans leur territoire, dans le pays de Moab, pour qu'elles puissent se remarier, puisqu'elle dit « Moi, je ne pourrais pas te redonner d'autres enfants, je suis trop vieille. » Et donc, allez-y. Et une des belles filles est restée, et puis l'autre, Ruth, est partie avec Naomi. Et là, ils reviennent à Bethléem, et Naomi se fait appeler Mara. Elle dit, parce que Dieu m'a enlevé mes enfants, mes deux enfants et mon mari, et je suis appelée amère, parce que Naomi, ça veut dire faveur. Et donc, elle était très, très triste, elle était... Et Ruth s'est occupée de Naomi. Et Ruth s'est mise à chercher du travail. Elle a regardé ce qu'elle pouvait faire, elle a vu un champ, et elle a demandé à pouvoir glaner du blé. Et puis ensuite, elle a travaillé dur. Et puis ensuite, elle a été repérée par le propriétaire du terrain, lequel a commencé à l'inviter, lequel a commencé à lui donner un peu plus de blé. Et puis un jour, elle découvre en parlant à Naomi qu'en fait, c'est en fait un champ. C'est le champ de Boaz, qui est le frère d'Élimélec. Donc en fait, c'est de la famille de Marie, de Naomi. Donc là où elle avait été au hasard, en fait, c'était un champ où il y avait de la famille. Et à l'époque, les parents pouvaient racheter les terrains et ils devaient aussi, du coup, racheter et prendre soin de la famille qui était encore en vie. Donc quand Boaz a découvert que Ruth était de sa famille, il a proposé de la racheter. Sa terre et Naomi et elle-même. Alors je vous passe les détails. Il y avait un parent avant lui, mais il a renoncé. Par contre, Boaz a dit « moi j'achète ». Et il a racheté le terrain. Il a racheté aussi, il a donné à Naomi et à Ruth une vie décente, puisqu'il a épousé Ruth et lui a donné un descendant. Donc ça, c'est l'histoire de Ruth. Alors on pourrait raconter avec l'histoire de Ruth plein de choses, mais moi je vais me focaliser sur le travail, puisqu'on est sur la série sur le travail. Alors comment je vais illustrer le fait que on puisse faire de son emploi un lieu, un travail pour Dieu. Alors il y a plusieurs principes dans cette histoire, et le premier c'est déjà travailler. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ecclésiaste 9:10, ça semble tout bête. Mais c'est la première chose qu'on voit. Quand Ruth arrive à Bethléem, la première chose qu'elle fait, elle dit « Laisse-moi, en parlant à Naomi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Tout de suite, ce qu'elle veut faire, c'est travailler. Et donc, nous, souvent, on veut rentrer dans le travail parfait. Mais la parole de Dieu, elle est claire concernant l'activité. Fais quelque chose plutôt que de ne rien faire. C'est vrai que quelquefois, on est là, on attend, on ne travaille pas parce qu'on voudrait tel travail avec telle condition, tel salaire, telle chose. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Ce que ta main peut faire, fais-le. Il y a un moment, il faut se lancer parce que Dieu condamne la oisiveté. Alors moi j'aime bien le verset, le proverbe qu'il y a dans la salle du staff. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc Dieu veut qu'on ait une activité. Dieu veut qu'on ait une activité. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Les œuvres sont préparées d'avance, mais il faut travailler. Et parfois il faut travailler dur. Même si elles sont préparées d'avance, ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles d'accès. D'ailleurs, dans Ruth, depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Voilà ce que dit le serviteur à Boaz. Donc Ruth travaille dur dans son champ. Et Paul disait de son travail, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés nous bénissons, persécutés nous supportons. » Donc même Paul, qui était dans son appel, a dû travailler dur. Et depuis qu'on a vu, on était plusieurs à aller voir le film Paul, apôtre de Christ, ça nous a donné un peu la mesure des légères afflictions qu'il a supportées. C'est juste, je vous encourage à aller le voir parce que vraiment ça nous permet de relativiser nos petites afflictions et nos petits mécontentements. Oui. Eux, ils travaillaient vraiment dur pour l'Évangile et je crois que c'est important de dire que Dieu veut qu'on travaille. C'est tout bête, mais ce que ta main peut faire, fais-le. tout cas, c'est un conseil que je vous donne, parce que j'ai eu dans mon travail à embaucher des personnes, et je me souviens d'une jeune femme chrétienne, qui d'ailleurs n'est plus dans cette église, mais qui cherchait du travail. Donc je m'étais renseignée, j'étais allée voir les ressources humaines, et puis ils avaient dit, ben, on peut l'employer comme contractuelle. Finalement, elle est venue, elle a rencontré les personnes qui faisaient les mêmes missions qu'elle. Et puis quelques jours après, on m'a appelé et puis on m'a dit, bah, écoutez, elle a dit qu'on ne gagnait pas assez chez nous. Donc elle a refusé le poste. Et cette même personne, ça faisait des mois qu'elle était au chômage, que son mari ne travaillait pas. Et en fait, je pense que c'était une mauvaise attitude. Parce que du coup, les jeunes femmes qui étaient là, qui elles travaillent pour ce salaire-là, elles ont dit, mais c'est qui ta copine là? Ça les a blessées en fait. Et je pense que si elle avait simplement pris ce que Dieu lui donnait là, elle aurait vraiment travaillé, elle aurait trouvé d'autres portes qui s'ouvraient, parce qu'elle aurait trouvé certainement plus près, elle aurait eu une augmentation de salaire, elle aurait peut-être eu une promotion, elle serait peut-être maintenant chef de service. Mais c'était l'attitude. Elle avait des critères, elle a dit non. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Et donc, si vous voulez, je veux vraiment nous encourager. Si on veut commencer à ce que notre emploi devienne un travail, ben, il faut déjà commencer par travailler. Et travailler pour le Seigneur, encore une fois, ce n'est pas une sinécure. Et je peux vous le dire parce que quand je vois Rodrigue, je pense qu'il fait des heures incroyables. Il fait des choses que vous n'imaginez pas. Il supporte des choses qui sont difficiles. Il prend des décisions et ce n'est pas facile. Mais franchement, chapeau. Quand il jeûne, quand il prie, quand il est là et qu'il soutient, qui vient vous visiter. Il fait des heures, il fait des grosses heures. Oui, vraiment. Vraiment. C'est vrai. Tiens, modèle, Rodrigue. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un pasteur comme ça. Je vous le dis. Et c'est un bon modèle pour nous. Il nous met la barre haute, mais en même temps, c'est possible, en fait. C'est possible quand on le fait avec le Seigneur. Donc, vous voyez, la première chose, déjà, ben, c'est déjà de travailler, si on veut transformer notre emploi en travail. Puis, le deuxième principe, c'est « Es-tu une bénédiction pour ton patron ou un fardeau ?» Moi, je suis patron, patronne, on m'appelle chef. Mais j'ai aussi des chefs au-dessus de moi. Dans Ruth, si vous lisez Ruth, et je vous encourage à lire Ruth, on a vu qu'elle était courageuse, puisqu'on a vu qu'elle s'est mise à travailler tout de suite pour prendre soin de Naomi. Elle n'a pas attendu. Mais on dit d'elle aussi qu'elle est obéissante, puisque vis-à-vis de sa belle-mère et de Boaz, elle écoute ce que Boaz lui dit. Boaz lui a dit « Suis mes serviteurs », elle suit ses serviteurs. Naomi lui dit « Va dans ce champ-là », elle y va. Elle est aussi fidèle, puisque je vous ai dit, elle a voulu suivre sa belle-mère. Elle a dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Elle a du caractère, cette femme. Elle est fidèle. Et elle est fidèle aussi parce que Boaz lui a donné un conseil que souvent on utilise pour parler de nos églises. Mais là, moi, je parle du travail. Boaz lui a dit de ne pas aller glaner dans un autre champ. Alors souvent, les pasteurs disent ça pour dire surtout n'allez pas dans d'autres églises. Mais en fait, là, c'est être fidèle dans son travail. Jusqu'au moment où Dieu peut-être nous enverra ailleurs, mais fidèle. Elle était persévérante aussi. Puisque dans Ruth, là encore, 2:23, il est dit pour glaner jusqu'à... Elle a travaillé pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. C'est-à-dire qu'elle a fait deux moissons. Persévérante. Et aussi, elle est reconnaissante. Ça, c'est un très fort. Très, très fort. C'est une grande porte pour avoir une bénédiction. Être reconnaissante. Elle dit, mais comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi ? Moi qui suis étrangère. Elle était humble. Et Boaz l'appelle femme vertueuse. Vous savez, dans la Bible, deux fois, il est parlé de la femme vertueuse. C'est Boaz. pour parler de Ruth. Et puis, c'est dans Proverbe 31 où il est parlé de la femme vertueuse. J'aime lire ce passage parce que ça édifie. En tout cas, toutes les femmes peuvent le lire, c'est vraiment très beau. Et donc, voilà, ça veut dire que Ruth avait produit une belle attitude. Elle avait une attitude, elle a été quelqu'un qui a été une bénédiction, en tout cas pour Boaz, qui était son patron à l'époque. Alors moi, je nous pose la question. Quelles sont nos attitudes dans notre champ, c'est-à-dire dans notre emploi? Est-ce que vous critiquez votre hiérarchie? En bon français, je suppose que non. Les chefs sont toujours honorés, bien sûr. Hein? C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez des petits moments de paresse, un petit retard par-ci, un petit oubli par-là, où vous êtes toujours à l'heure? Est-ce que vous faites quelques compromis? Je ne sais pas, on part avec un petit post-it, un petit stylo, et puis après, après tout, c'est rien pour l'entreprise. En fait, est-ce que tu es serviteur? Ou est-ce que tu es, comme je les appelle, les ronchonneurs? Moi, j'ai une personne, bon, je ne dirai pas son nom, je l'appelle Ronchonchon. Parce qu'elle rouspète tout le temps. Et tout le temps, elle est négative. Et tout le temps, si vous voulez perdre votre joie, vous la comptoyez 5 minutes. Et vous voyez si vous avez la joie parfaite de l'Éternel. Et je l'appelle Ronchonchon. Mais je l'aime bien, en fait, Ronchonchon. C'est juste qu'elle ne sait pas qu'elle a de la valeur et qu'elle est extraordinaire. Et en fait, justement, Ronchonchon, un jour, elle a réussi à me contaminer. Parce qu'au départ, j'étais bien sûr la femme vertueuse au travail. J'étais arrivée à l'heure, j'étais formidable, je disais jamais de mal de personne. Mais bon, il y a plein de Ronchonchons parfois dans les services, n'est-ce pas, hein, Sandrine? Alors quelquefois, ben, on est fatigué, puis Ronchonchon, elle a raison après tout. Oui, et puis telle... Et puis lui, et puis celle-là, et puis petit à petit, vous savez, c'est comme un nuage qui vient sur notre tête, et puis on finit par critiquer. Puis on finit par dire, mais j'en ai marre de ce travail. Puis le soir, on dit, Seigneur, viens, délivre-moi de cet endroit. Et on prie, on crie, puis le Seigneur, il répond pas. Et moins il répond, et plus on s'énerve. Et plus on est fatigué, et moins on a envie d'y aller. C'est du vécu. Mais en fait, un jour... Après avoir bien râlé devant Dieu, un matin, je me lève et je me mets à écrire ce que Dieu me donne à écrire. Et en fait, j'écris des questions. Dieu me fait écrire des questions. Alors, je vous les lis. Ça, c'est ce qui concernait le travail. Est-ce que j'ai une vision de mon emploi? Est-ce que je suis une bénédiction au travers de mon travail? Est-ce que je grandis et est-ce que je fais grandir les autres? Alors là, je me suis dit, tiens, j'ai aucune réponse à donner pour l'instant. En fait, le Seigneur est en train de me recentrer sur moi. Parce que avant d'aller rouspéter, il fallait peut-être que je regarde qu'est-ce que moi j'apporte. Qu'est-ce que moi je fais pour mon entreprise? Qu'est-ce que moi je fais pour mes collègues? Est-ce que la fameuse Ronchonchon, est-ce que je l'ai aidée? Elle a peut-être des problèmes dans sa vie, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai pris le temps de m'asseoir? Est-ce que je l'ai encouragée? Ou est-ce que j'ai juste dit, ah, j'en ai marre, moi aussi? Est-ce que j'ai montré l'exemple? En fait, avec ces simples questions, c'est comme si le Seigneur me parlait à moi de tout ce que je ne faisais pas. À ces questions-là, je ne pouvais pas répondre des questions positives. Du coup, ça m'a fait réfléchir. Et moi, j'appelle ça poser les bonnes questions. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Et Dieu est un Dieu qui nous pose les bonnes questions. Alors l'autre fois, je réfléchissais parce qu'il y a un film que j'aime bien avec Will Smith, iRobot. Vous savez, il y a le robot, il dit toujours à Will Smith, tu ne poses pas la bonne question. Pour avoir la bonne réponse, il fallait qu'il lui pose la bonne question. Mais il fallait qu'il trouve la bonne question pour avoir la bonne réponse. C'est un art de poser les bonnes questions. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Ça nous évitera de dire des bêtises. Ça nous évitera de dire « Seigneur, envoie-moi ailleurs », alors que le Seigneur, il dit « Mais change ton cœur, change ton attitude, arrête de devenir comme Ronchonchon, sois la lumière, sois le sel. » En fait, c'est ça que Dieu me demandait. C'est pas moi qui dois être contaminé par les autres, c'est moi qui dois contaminer les autres. Voilà. Et donc, j'aime bien, c'est Kennedy qui disait, ça vous le connaissez tous, ne te demande pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour l'Amérique. Et c'est ce que Dieu nous dit. En fait, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton emploi ? Arrête de me demander, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton emploi maintenant ? Pour que tu le transformes en travail, que tu le transformes en source de vie, que tu viennes contaminer, que tu viennes amener le royaume de Dieu. En fait, c'était ça que Dieu voulait me dire. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Alors, si vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, j'ai relu Romains chapitre 12 et chapitre 13. Ça vous donne une bonne feuille de route déjà. Si vous y arrivez, vous allez certainement changer l'atmosphère de votre lieu où vous allez travailler. Il y a à peu près tout ce qu'il faut faire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est mettre en pratique la parole. Parce qu'on peut prier, on peut prier. Mais ce que Dieu attend, c'est est-ce que tu le fais ? Et quand on le fait, c'est vrai que les choses bougent, changent, parce que c'est pour ça que Dieu nous instruit. C'est pour qu'on le fasse. Donc, vous voyez, est-ce que tu es une bénédiction ou un fardeau ? Moi, j'ai répondu et j'ai changé mon cœur. Et je pense que maintenant, je suis une bénédiction. Et d'ailleurs, vous savez, quand on est une bénédiction, on a souvent des promotions. Alléluia. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Mais on a des promotions. Alléluia. Parce que Dieu veut qu'on soit une bénédiction pour bénir les autres. Donc, si vous voulez des promotions, devenez une bénédiction sur vos lieux de travail. Et vous verrez que Dieu va répondre. Alors, la troisième chose, le troisième point, c'est quel est ton témoignage sur ton lieu de travail ? Dans Ruth, Boaz, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à Ruth, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » En fait, Boaz était touché parce qu'il entendait le témoignage. Il connaissait très peu de Ruth. Il la voyait dans son champ. Mais en fait, il savait ce qu'on avait raconté de Ruth. C'est important le témoignage. Et un peu plus tard, à nouveau, il dit à Ruth, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. En fait, encore une fois, il est saisi par le témoignage de la vie de Ruth. Et c'est important d'être un témoignage. Parce que le témoignage, ça parle de notre Père. En fait, on est témoin, on est ambassadeur. À travers nous, on voit les valeurs du royaume. Et donc, qu'est-ce qu'on dit de vous ? Sur votre lieu de travail. Si un jour j'arrive, on va me dire, tiens, qu'est-ce qu'on va dire, Nicolas ? Je ne sais pas. Serge. Bon, Serge, je sais. Parce que Serge, on a les mêmes collègues. Et alors, on me dit, oh, mais monsieur Abautré, oh là là, on veut le voir venir. Je sais, les témoignages. Il y a des bons témoignages. Quand on parle de Serge, mais partout où je vais, il est apprécié. C'est vraiment quelqu'un qui apporte quelque chose. Je connais le témoignage de Serge. Je connais le témoignage d'Aïke. En fait, tous ceux avec qui je travaille. Et puis, j'ai aussi des gens dont j'ai des mauvais témoignages, mais ils ne sont pas de l'Église. C'est vrai. Là, de mon Dieu. Mais ils sont dans d'autres églises. Mais vous savez quoi, ce que je fais? Moi, je vais leur dire. Parce qu'il faut aussi qu'ils entendent ce qu'on dit d'eux. Ce n'est pas bon de les laisser partir. C'est comme une étiquette dans le dos, vous savez, un poisson d'avril. Tout le monde le voit, tout le monde rit. Et bien moi, quand j'entends des mauvais témoignages, par respect pour la personne, avec délicatesse, je l'enrobe, mais je lui dis. Pour qu'éventuellement, elle se corrige si jamais c'est vrai ou si jamais elle peut corriger ce qui ne va pas. Mais c'est vrai que le témoignage est important. Le témoignage de l'EPSO, oui, Rodrigue me dit, le témoignage de l'EPSO, oui, c'est vrai. C'est vrai que l'EPSO, dans le social, a une excellente réputation. C'est vrai. J'ai une assistante sociale qui était toute contente parce qu'elle me dit « Ah, je vais envoyer quelqu'un à l'EPSO, je sais qu'elle va être bien accueillie, c'est formidable. » Et puis il se trouve que c'est au moment où l'EPSO a un peu réduit son champ d'intervention, il s'est focalisé sur près d'Arène. Et alors elle était déçue, mais presque elle en pleurait, déçue. Parce qu'elle dit « Mais cette dame, je sais qu'elle aurait été bien accompagnée, c'est différent là-bas. » Et alors elle m'a dit « Tu connais un petit peu ?» Je dis, oh oui, un petit peu. » Ils sont bien. Oui, c'est important, les témoignages. Vous voyez, on est sel et lumière. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un bon témoignage, j'étais une bonne élève. Et je me souviens qu'un jour, j'avais envie de faire comme certains copains ou copines qui se faisaient renvoyer du cours d'italien. On avait une prof d'italien. Si vous aviez 5 minutes de retard, hop, elle vous virait. Et un jour, je me suis dit, ah, moi j'aimerais bien partir avec eux, aller manger une glace et tout. Donc j'attends en bas, parce que j'étais quand même à l'heure, donc j'attends derrière la porte. Et 10 minutes après, 14h10, je sonne. Puis je fais, ah c'est moi, je suis en retard. Ah mademoiselle Vervat, venez, c'est pas grave. Ah j'étais dégoûtée, en fait. Le témoignage. J'arrivais pas à me faire revirer des cours parce que les profs m'aimaient trop. Donc, je pouvais arriver en retard, je pouvais faire des bêtises. On me pardonnait toujours. Et j'ai jamais pu sécher un cours. C'était assez... voilà, c'est comme ça. Mais le bon témoignage, il parle pour nous. En fait, il nous fait qu'on nous pardonne. On nous passe nos petites... nos petites erreurs. Et je voudrais vous lire un texte que je lisais quand j'étais jeune, de Martin Luther King, et qui est vraiment édifiant. C'est lui qui le dit. « Quoi que vous fassiez dans la vie, faites le bien. Un homme devrait accomplir sa tâche si bien que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent le faire mieux que lui. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven écrivait sa musique. Balayez les rues, si bien que même longtemps après vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire « Ici a vécu un grand balayeur des rues qui faisait bien son boulot. » Je vous souhaite qu'on dise de vous en voyant Karim, là. Karim est passé. Et il a fait un super boulot. Les anges s'arrêteraient pour dire, là, c'est du bon boulot. Alléluia. Ça serait bon. Et pour que chacun de nous, et ça veut dire aussi que quel que soit le travail qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait, c'est qui on est, qui on représente. On représente le roi des rois. Et ça se sent, l'atmosphère change. Peu importe ce que vous faites, vous avez la dignité du roi des rois. Et faites-le aussi bien. Si bien quand vous nettoyez ici, ben faites-le pour que les anges disent « Waouh, ça a été bien nettoyé. Ça a été peint. » Je suis sûre que les anges ont dit que ça a été peint. Le hall a été peint. Et que les hôtes du ciel et de la terre disent « Waouh, ici, c'est des grands peintres qui ont peint. » Des grands hommes de Dieu. Parce que c'est fait avec précision, avec amour, avec grâce. C'est comme si c'était, comme si c'était pour eux-mêmes. Il y a de l'amour dans ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est ça que Dieu nous attend. Alors, vous savez pourquoi c'est aussi important d'être un bon témoignage? Parce que imaginez quelqu'un qui a un mauvais témoignage et qui va témoigner de Dieu. Ben moi, j'ai des gens à mon travail qui ont voulu faire ça. C'est catastrophique. Parce que vous ne pouvez pas être un mauvais témoignage et vouloir témoigner du grand Dieu que vous servez. Vous devez, vous êtes la carte de visite. Il vous voit d'abord vous. Et après, vous témoignez sur votre lieu de travail. Vous priez pour les malades. Vous dites, mais moi, je crois en Dieu. Moi, je crois que Dieu peut te sauver. Dieu a changé ma vie. Mais encore faut-il qu'il voit qu'il y a vraiment une vie différente de celle de ma voisine. Donc c'est pour ça que c'est aussi important, parce qu'il nous est demandé de témoigner, de partager la bonne nouvelle. Mais il faut qu'on soit cohérent. Il faut que nos vies soient cohérentes avec le message et surtout avec notre grand Dieu. Donc c'est important, sur son lieu de travail, de veiller au témoignage. Vraiment. Finalement, dans l'histoire de Ruth, la question qu'il faut que vous posiez aussi, c'est comment vois-tu le lieu où Dieu t'a placé? Voyez, Ruth, en fait, elle est sortie, elle a pris le premier champ qui était sous ses pieds. Voilà, elle s'est dit, tiens, je vais aller glaner les épis là. Elle a demandé si elle pouvait. Mais la parole de Dieu dit, il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. En fait, elle ne savait pas, elle. Et c'est bien après, quand elle a raconté à Naomi combien ce monsieur était gentil, etc., que Naomi a dit, mais cet homme, c'est notre parent. Il est de ceux qui ont un droit de rachat sur nous. Révélation. En fait, Ruth pensait que le champ, c'était un champ. Vous croyez que votre emploi, c'est un emploi. Mais derrière l'emploi, il y a autre chose, parce que derrière le champ, il y avait autre chose. Derrière le champ, il y avait la rédemption. Parce que figurez-vous que dans cette histoire, Boaz, c'est une figure de Christ. En fait, on dit, il y a des personnages comme ça, bibliques, qui sont des figures de Christ, c'est-à-dire qu'ils ont des valeurs, par leur vie, eh bien, ils préfigurent Jésus dans son œuvre rédemptrice. Eh bien, Boaz en est un. Alors, pour l'anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, Boaz était de Bethléem. Mais Boaz, il était propriétaire de son champ. Et il se promenait, il connaît ses serviteurs. Puis tout d'un coup, il dit, mais c'est qui elle? Vous imaginez, il doit y en avoir plein. Mais tout de suite, il a repéré Ruth. Il dit à ses serviteurs, mais c'est qui cette femme? À qui est cette femme? Il a dit exactement. Et pareil, vous croyez que vous êtes dans votre champ, mais Dieu vous voit. Dieu vous voit, vous croyez que vous êtes perdu au milieu, mais Dieu connaît ses brebis. Et il vous voit dans cet endroit, peut-être dans un bureau perdu où il y a pas, vous n'avez pas le confort, où personne ne vous parle, mais Dieu vous voit. Dans la parole de Dieu, il s'appelle Atta El Roy, l'Éternel qui voit. C'est celui qui a entendu Agar, il l'a vu dans le désert. Donc Boaz, vous voyez, il était là et tout de suite il voit Ruth, il la repère. Ben Dieu nous repère. Là où vous êtes, je vous dis, Dieu vous voit. Mais il vous voit. Il vous voit vraiment, c'est-à-dire il vous voit dans le secret, il vous voit dans la lumière. Donc il vous voit, mais sauf que Dieu vous aime. Donc son amour, de toute façon, est plus grand que tout le reste. Donc vous voyez, Boaz, déjà, il avait repéré. Puis après, Boaz, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ses serviteurs et puis il intercède pour Ruth. Il ne sait pas encore que Ruth, c'est de sa famille. Donc il intercède et puis dit à ses serviteurs, mais pour cette jeune fille, là, écoutez, laissez-lui quelques épis, laissez-la un peu avec vous et puis même faites tomber des épis. Et puis carrément, après, il l'invite à manger avec les serviteurs, les servantes. Et puis un jour, il lui remplit carrément sa veste d'orge. En fait, il y a une faveur, il l'intercède, il y a une faveur pour que Ruth soit bénie. Il a reconnu quelque chose dans cette femme et il veut qu'elle ait de quoi manger, il veut qu'elle soit et qu'elle puisse donner aussi manger à Naomi. Et bien pareil, c'est une figure de Christ parce que c'est ce que fait Jésus. Jésus, il intercède pour nous. Il vous voit dans votre travail. Il vous voit dans des endroits où il vous a envoyé et il sait que ce n'est pas facile. Il y a des endroits qui ne sont pas faciles pour travailler. Il y a des endroits où techniquement c'est difficile. Travailler dans un garage avec les odeurs d'essence, avec le bruit. Ou travailler dans un bureau fermé. Ou travailler dans la police. C'est difficile. Mais comme Boaz, Jésus, il intercède, il cherche pour vous faire des faveurs. C'est là que c'est important d'avoir la bonne attitude. Parce qu'il va vous donner, il va vous donner, il veut transformer ce lieu aride en jardin de l'Éternel. Voyez ? Et aussi, il est dit à un moment que Boaz vient, il parle à Ruth. Non seulement Boaz parlait à ses serviteurs, puis à un moment il vient, il lui parle. Vous savez ce que dit Ruth ? Elle dit que Ruth, elle se sent consolée parce qu'il lui a parlé à son cœur. Donc Boaz n'est pas lointain. Boaz, il s'approche de Ruth et vient lui parler. De la même manière, Jésus vous parle. Jésus veut vous révéler ses stratégies. Parce que quand Boaz est venu lui parler, il est malin Boaz, hein. Il est le propriétaire du champ. Mais comme il ne voulait pas montrer trop de favoritisme, il lui a dit, mais tu sais, tu devrais faire comme ça avec mes serviteurs. Il est stratège, il lui montre comment il faut faire pour en fait roubignoler un petit peu plus de blé, quoi. Il lui donne des stratégies pour que sa vie s'améliore. C'est incroyable. Mais Jésus fait pareil avec nous. Là où vous êtes, c'est pour ça que c'est important d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il veut vous aider. Là où vous êtes, il veut que votre lumière brille, que vous soyez sel et lumière de la terre. Donc Jésus aussi intercède, parle et nous donne ses stratégies. Et puis la plus grande figure, c'est pour ça qu'il est connu, Boaz, c'est parce que Boaz a racheté en fait le travail pénible de Ruth pour lui offrir un statut d'épouse. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la croix ? Il nous a rachetés. Mais il nous a rachetés. Et comme pour Boaz, il a racheté aussi nos terres, c'est-à-dire tout ce qui nous concerne. Il a racheté aussi notre travail. Et du coup, vous voyez quel statut elle a maintenant, Ruth ? Ruth, c'est nous. Ruth, c'est en fait ceux qui se confient, alors elle en Boaz, mais c'est ceux qui se confient en Jésus. Boaz est la figure de Christ et Ruth représente ceux qui croient. Donc voyez, on va voir de qui elle a donné naissance Ruth, en fait. Vous allez voir l'héritage. Donc c'est notre héritage. En fait, cette histoire, ça raconte notre histoire. Alors voilà, est-ce que vous êtes conscient du lieu où Dieu vous a placé ? C'est là où je voudrais vous interpeller. Parfois, on a du mépris parce qu'on dit « Oh, c'est que mon emploi ». On en fait un contre-emploi. Mais est-ce que vous avez conscience que c'est Dieu qui vous a placé là ? Que ce n'est pas par vos mérites, c'est vraiment parce que Dieu a un plan pour vous. Comme pour Ruth, c'était juste un champ et pourtant il y a plus. Est-ce que parfois, vous voyez votre emploi comme une voie de garage en attendant la retraite ? Mais parfois, l'emploi peut être aussi un lieu de souffrance. Moi, je vois beaucoup de gens qui souffrent à leur travail, pour plein de raisons différentes. Mais Dieu dit qu'il rendra ton désert semblable à un Éden, et ta terre aride, un jardin de l'Éternel. C'est la promesse de Dieu. Donc vous voyez, quelles que soient les circonstances, Dieu parle et il nous dit ça. En fait, le cœur de Dieu, c'est que nos déserts soient transformés en Éden. Le plan original de Dieu, c'était l'Éden. Et ce qu'il veut pour nous tout le temps, c'est l'Éden. C'est là où les œuvres sont préparées d'avance, là où on va travailler, mais dans la sérénité, on va produire le bon fruit. Et vous savez qu'après la chute d'Adam et Ève, quand ils ont désobéi en fait, eh bien le travail est devenu malédiction. Le travail, il a été, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Mais Dieu a continué de vouloir bénir son peuple. Vous savez, avec la loi mosaïque, donc la loi donnée par Moïse, Dieu, dans Deutéronome 28, 12, a dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Voilà, ça c'est encore le cœur de Dieu. Dieu veut vous bénir, veut nous bénir dans notre travail. Il se trouve que, bon, là c'était conditionné aux lois. Et on sait que le peuple d'Israël a eu du mal. D'ailleurs, comme chacun de nous, on aurait du mal à obéir à toutes les lois. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a envoyé son fils, Jésus, qui nous a rachetés. Il a racheté toutes les malédictions puisqu'il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc Jésus a été pendu au bois. Donc il a été fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction. Donc la malédiction qui a été sur le travail a été rachetée. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce matin, Dieu nous rappelle que la malédiction qui était rattachée au travail, les terres arides, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous. C'est pas notre héritage. Notre héritage, c'est l'Éden, c'est le jardin de l'Éternel. Et donc, c'est ça que ce soit. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre. Vous savez, Moïse, il n'a pas vu qu'il était sur un lieu sacré. Il a fallu une révélation de Dieu qui lui dise « Là où tu es, le buisson ardent. » Il n'avait pas vu que là où Dieu l'avait placé, c'était pas le désert, c'était pas pour garder les brebis. Il y avait une intention. Pareil, Agar, quand elle était dans le désert et qu'elle criait, elle croyait qu'elle allait mourir. En fait, il y avait juste une source d'eau devant elle. En fait, on a besoin d'une révélation pour que vous voyez votre travail, votre emploi, pardon, comme votre champ de mission. Et que vous voyez que vous êtes envoyé, que Dieu en fait le début de votre travail. En fait, comment on transforme une terre aride en un champ, en un jardin. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On sème des semences et puis on arrose. C'est tout simple. Vous semez la parole de Dieu dans votre vie, vous appliquez ce qu'on s'est dit avant et puis vous laissez Jésus arroser. Puis la parole dit, c'est Dieu le Père qui fait pousser. Donc vous avez juste à laisser la parole de Dieu et laisser Jésus faire le reste. Mais ça veut dire qu'avant, vous faites ce qu'il faut, quoi. Vous travaillez, vous mettez en ordre pour être une bénédiction, vous êtes un bon témoignage. Et tout ça va se faire une semence bonne. Et quel que soit le lieu où vous allez être, ça va être transformé en jardin de l'Éternel. Rien ne peut résister. C'est-à-dire qu'aucune terre ne peut rester aride quand Dieu l'a décidé. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes destiné à réussir. Vous devez réussir, vous. C'est Dieu le veut pour vous. Et c'est notre héritage. Les étudiants sont destinés à réussir leurs examens. C'est votre champ, c'est votre mission. Et je crois que si on laisse le Seigneur agir dans vos vies, vous n'avez pas à le voir comme quelque chose de pénible, de terrible. Ça, c'est les terres arides. Mais Dieu nous dit des jardins de l'Éternel, votre Éden. Et ça fait la différence. Alors, vous savez, pour finir, qu'est-ce qui est arrivé à Ruth ? Ben, Ruth, elle est donc, elle s'est mariée avec Boaz, même s'il était un petit peu plus âgé qu'elle, puisqu'apparemment ça le réjouissait. Mais il lui a donné un fils qui s'appelle Obed. Et Obed est devenu le grand-père de David. Et vous savez que Ruth et Boaz font partie de la lignée du Messie, de Jésus. Ils sont nommés. Donc voyez ce que ça veut dire pour nous. C'est-à-dire, en fait, on a ce même héritage. Nous pouvons mettre au monde des projets extraordinaires. Nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires parce que c'est notre héritage. Il suffit simplement d'obéir à la parole de Dieu. Dans Ésaïe 58, 11, ça sera mon dernier verset. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Mais c'est une belle promesse. Donc moi, je veux vous voir comme ça. Je veux que vous me voyez comme ça. Si jamais vous me voyez toute sèche et toute tarie, ben dites-moi que j'ai un souci. Parce que c'est ça l'héritage que Dieu nous donne. Et donc voilà. En fait, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. C'est qu'on est appelé à prospérer. Dieu veut voir son peuple, non pas être dans des terres arides, mais dans des terres qui sont des jardins de l'Éternel, ensemencés par lui et arrosés par lui. Donc encore une fois, je voudrais vraiment que vous puissiez le saisir en esprit et puis demander vraiment la révélation. Que là où vous avez l'impression d'être dans un emploi, ben peut-être que Dieu, c'est votre Canaan. Il suffit juste de changer de lunettes. Mais peut-être que c'est juste un passage. C'est les fameuses étapes de formation. Mais si vous ne le faites pas bien, vous allez stagner. Donc on a tout avantage vraiment à transformer ce qu'on appelle un emploi en un travail. Et c'est très facile. Alors je vous le prêche parce que c'est mon actualité. Et je le crois. Je crois que Dieu peut faire des grandes choses. Que d'un emploi, il peut en faire un travail. On est en mission pour lui. Il suffit juste de capter ça. Et juste de se dire, mais on est tous envoyés. Et on est les seuls à pouvoir faire ce que vous allez faire. Je ne peux pas faire votre travail et vous ne pourrez pas faire le mien. Mais l'important, c'est de voir que vous êtes déjà dans le travail de Dieu. Vous êtes déjà dans votre destinée. Et surtout, ne regrettez jamais de là où Dieu vous place. Amen.